Reprawdas. Le titre du message ce matin est « Le Christ, évidemment, ressuscité ». Et lorsqu'on se rappelle la croix du Seigneur, comment l'instrument d'un supplice abominable, j'appellerais, comment est-ce que cet instrument de supplice, la croix, peut-elle être vénéré, adoré ou quoi que ce soit? C'est pas facile non plus de glorifier la croix quand elle désigne l'épreuve physique ou morale qui survient dans nos propres vies. Hein, on a de la difficulté avec ça. Alors, comment on fait? Le Seigneur est élevé sur cette croix. Et à plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean, Jésus a fait une allusion qui est précise à son élévation sur la croix. Pour l'apôtre Jean, la fixation du Christ sur cette croix infâme est en réalité une élévation glorieuse. Dans Jean 8, verset 28, Jean 8, 28, ceux qui ont des feuilles de notes, vous pouvez l'inscrire, puis vous allez voir chez vous. Mais je vais vous le lire. « Alors, Jésus leur dit donc, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. » Ce qui veut dire que la croix révèle le Christ comme le Fils de Dieu. Et je me dis, quel fantastique revirement. Une croix infâme, une croix qui devient maintenant salut. Et ce matin, le Christ ressuscité apparaît à ses disciples, marqué des stigmates de sa passion. Donc, on pourrait dire que dans les épreuves qui nous écrasent à chaque jour, c'est difficile, voire même parfois impossible, de croire que ces épreuves-là dans nos vies nous élèvent en quoi que ce soit. Qui de nous croit cela? Regardons simplement la croix du Christ. Le Seigneur y donne sa vie. À Nicodème, un notable juif venu le soir le rencontrer, Jésus fait un rapprochement entre un signe sauveur élevé par Moïse dans le désert contre la morsure de serpent et son élévation sur la croix. Et au chapitre 3, verset 14 de l'Évangile de Jean, le Seigneur dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Le serpent de bronze sur un bâton guérissait le peuple décimé par le fléau du péché. Et Jésus apporte le salut, la vie éternelle à tous ceux qui regardent avec foi vers lui. C'est pas compliqué, hein? C'est pas difficile à comprendre, ça. Il s'agit d'avoir la foi. La croix, l'instrument de mort, devient bois d'espérance et de vie. Par elle, nous sommes guéris, arrachés du pouvoir du mal et de la mort dans la résurrection du premier-né d'entre les morts. C'est ce que Paul écrit dans Romains 8, 11. Hein? Ici, l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Je vais le formuler autrement.
si l'Esprit Saint habite en vous, si vous êtes sauvés, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, Dieu, prendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Vous savez, le Seigneur, par tout ça, toute sa vie, son ministère public, elle veut révéler l'amour du Père. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16 dit, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux. L'amour de Dieu est rendu visible et même tangible. Quelque chose qu'on peut palper. C'est là que Dieu nous aime jusqu'à l'extrême. Et en se mettant au rang des malfaiteurs, se faisant pécher pour nous, Jésus témoigne que personne n'est exclu de la miséricorde de Dieu. La croix, c'est le paradoxe, le sommet de l'amour de Dieu. Tout homme, si pécheur soit-il, aussi bas qu'il soit tombé, peut être relevé par le pardon, élevé dans la dignité de sa vocation. C'est ainsi que la croix devient glorieuse et qu'elle est un signe d'espérance. On a besoin d'espérance. Je suis triste d'entendre des fois des gens qui me disent qu'après la mort, c'est fini. Aucune espérance. Je l'ai entendu de personnes même qui se disent chrétiens ou qui appartiennent à une église soi-disant chrétienne. Mais c'est à se demander pourquoi une mort si infâme. On dit que Jésus est mort sur une croix pour racheter nos péchés. Comme si sa mort avait servi à apaiser la colère de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Comment croire à un scénario d'un Dieu en colère par le péché des hommes et que le sang de son Fils apaise sa colère? Et comment comprendre une mort si horrible? Vous savez, c'est une question à laquelle Jésus répond lui-même dans l'Évangile de Luc au chapitre 24, verset 26. Gardez bien, si vous pouvez y tourner, Luc 24, verset 26. Jésus dit, « Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Ensuite, Jésus va ouvrir les Écritures et il interprète pour ses disciples tout ce qui est écrit à son sujet. Donc, il fallait. Vous savez, si vous avez une concordance à la maison, vous faites l'exercice, ou bien non, faites-le manuellement, de répertorier dans l'Évangile de Luc tous les « il faut », « il fallait », « fallait-il donc ». Répertorier tous ces « il faut-là » que Jésus prononce. Il y en a 11 en tout. Ça va dépendre des versions. Ça se peut qu'il y en ait plus dans une version que dans l'autre, mais ça veut dire le même. Jésus prononce ces mots pour la première fois quand il a 12 ans. « Il me faut être chez mon Père. Il faut que je fasse la volonté de mon Père. » À 12 ans, Jésus dit cela à sa mère, à son père. Et en disant cela, il veut dire que tout ce qu'il fera et dira par la suite va être en accord avec ce que Dieu désire. J'habite chez Dieu, dit Jésus. Je suis en Dieu et il est en moi. Dans Jean 17, il demeure en moi. À Zachée, vous savez ce petit bonhomme-là, là, qui a monté dans un arbre, il va dire, « Il me faut demeurer chez toi. » Au début de sa vie publique, Jésus dit, « Il me faut annoncer la bonne nouvelle du règne de Dieu. » savez, c'est une urgence pour le salut du monde. J'écoutais un message hier soir de Paul Washer, qui l'a prêché à Grace to You lors de la conférence que j'étais supposé d'aller, mais je n'y ai pas été, mais ça rien, au moins on a les vidéos des messages qui ont été prêchés. Et Paul Washer prêche parle à des pasteurs. Et il veut démontrer par là combien c'est important la mission que Jésus nous a donnée dans Matthieu 28. Si on fête aujourd'hui Jésus ressuscité, c'est pas assez une bonne nouvelle, ça, pour la dire au monde entier. En commençant par moi. En commençant par moi. On a tous ce mandat-là. Et le Seigneur n'a pas mis ça compliqué pantoute. Juste parler de cette bonne nouvelle-là. Et cette bonne nouvelle-là est dans les Évangiles, dans la parole de Dieu. Quand on lui reproche, quand on reproche à Jésus d'avoir guéri une femme, il dit, « Ne fallait-il pas libérer cette femme? Ne faut-il pas libérer ceux qu'on aime, ceux qu'on rencontre, parce qu'ils sont prisonniers, tout comme nous l'étions, des péchés, du péché. Et à cause de cela, ils n'ont aucun accès à la vie éternelle. » Jésus, lui-même, était habité par cette nécessité-là, dont il donne encore une belle illustration dans la parabole du fils prodigue, quand le père dit à son fils aîné, il fallait, il dit ça à son plus vieux qui est jaloux, il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère qui était mort est revenu à la vie. Il fallait donc que le Fils de Dieu meure sur une croix. Il fallait qu'il accomplisse le salut du monde. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Il fallait qu'il soit rejeté. Il faut que s'accomplisse en moi le texte des Écritures. On l'a compté parmi les criminels. Ce sont tous de brefs passages des Écritures qui nous démontrent qu'il fallait. Jésus se met en route avec beaucoup de joie pour annoncer la bonne nouvelle. Le royaume des dieux est proche. Convertissez-vous. C'est pour vous dire qu'il est encore plus proche aujourd'hui. Et le monde dans lequel on vit a besoin du salut de Dieu. Et au fil des jours, le Seigneur Jésus va se heurter à la méchanceté humaine. Nous aussi, on va faire face à ça, si on est dans la mission. Et là, dans l'Écriture, on passe d'un « il faut » à un autre plus douloureux, c'est-à-dire « il faut bien ». Ce qu'il faut tenir compte dans l'amour, c'est que Jésus apporte un message d'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Il apporte une bonne nouvelle. Pas l'amour du monde, comme je l'ai dit vendredi, mais l'amour agapé. Parce que nous sommes pécheurs, parce que même si on est sauvé, on est encore des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Une grosse différence entre un pécheur non pardonné, non sauvé, avec un pécheur qui est pardonné. Donc, parce que nous sommes encore des pécheurs, l'homme se ferme à la bonne nouvelle. Rappelez-vous, avant d'être sauvé.
Moi, je me rappelle des choses avec mon frère Paul Tremblay que j'aurais honte de dire aujourd'hui. Tellement je me suis bidonné à rire de lui parce qu'il m'amenait le message, la bonne nouvelle. Et ça, c'est à cause de mon cœur pécheur, ma chair. Et Jésus, même s'il annonce une bonne nouvelle, il voit qu'il est rejeté. De deux choses, l'une ou bien il capitule, il se retire, quel malheur pour nous, ou bien il tient bon. Il a tenu bon. Il savait où il allait, il s'est dit, il faut que j'y aille. Il dit d'ailleurs, il me faut aller à Jérusalem, c'est là que meurent les prophètes. Vous savez, les mots d'amour de Dieu sont magnifiques, mais ils sont exigeants. C'est pourquoi le message de Jésus va se heurter à notre incapacité à entrer dans cette beauté qui est exigeante. On peut bien comprendre le « il faut », l'urgence du salut, mais pourquoi cette mort sur la croix a été si horrible? La mort sur la croix, c'était la mort la plus infâme à l'époque de Jésus. Et j'aimerais qu'on se pose cette question-là. Pourquoi faut-il que nous refusions la bonté de Dieu? Pourquoi le monde aujourd'hui rejette la bonté de Dieu? Pourquoi parfois nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, on agit comme des humains charnels? C'est insensé, c'est fou. Et c'est ça, tout le drame du péché. Jésus dit dans Jean, ils m'ont haï sans raison. Finalement, est-ce que toute cette histoire de la crucifixion, de la résurrection, mène au désastre? Absolument pas. Absolument pas. Cette histoire conduit à la vie. Dieu vient rejoindre les hommes, hein? Lorsqu'on fête la naissance de Jésus, Dieu vient rejoindre ces hommes qu'il a créés et qu'il a dit dans Genèse 1 comme étant très bons. Mais l'homme a été blessé, meurtri par le péché. C'est là que la communion s'est brisée. S'il veut nous rejoindre au fond de nos cœurs, si le Seigneur veut nous rejoindre au fond de nos cœurs, il sait qu'il va devoir traverser notre folie et notre péché. Mais le Seigneur est prêt à aller jusqu'au bout. Jean va dire jusqu'à l'extrême. Jusqu'où il le faudra. Jusqu'où nos péchés vont l'exiger. Faut-il s'indigner de voir le Père laisser mourir son Fils? Non, ça serait une grave erreur. Une grave erreur. On parle beaucoup de ce fameux rachat dans les études de Paul. Mais quand on rachète, quand on verse une rançon, c'est pour libérer quelqu'un. Donc, Dieu ne veut rien d'autre que ta vie, ma vie, la vie de l'homme. Et Dieu était certainement malheureux, désolé de la mort de son Fils Jésus, mais c'est ce qu'il fallait. Il le faut. On doit être même étonné et émerveillé de la fidélité, l'amour du Père qui lâche à rien. Puis aussi, c'est du mauvais français, là, du Fils qui tient bon, qui lâche pas pour aimer l'homme.
pour traverser son péché et ne pas s'arrêter à sa malfaisance. Pour que finalement le Christ puisse dire sur la croix ces mots étonnants, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Dieu donne la vie jusqu'au-delà du don, jusqu'au pardon. Et ces derniers mots sont notre salut. Donc, il faut s'émerveiller et non s'indigner de cette mort sur la croix. L'émerveillement complet se passe au matin de Pâques, quand tout s'éclaire et que l'on découvre que la mort n'a pas eu le dernier mot. Vous savez, avant d'être livré, Jésus a dit, « Je désire d'un grand désir. J'ai désiré d'un grand désir partager cette Pâque avec vous. J'ai désiré aller jusqu'au bout. Que ce soit une Pâque pour nous et qu'à travers cet amour fidèle, frères et sœurs, on puisse trouver un chemin de vie. Le Seigneur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La mort de Jésus sur la croix était absolument nécessaire pour nous racheter. La mort du Christ, c'est un rachat, un paiement au Père pour apaiser sa colère. Ça fait partie du fondement de notre foi chrétienne. Que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. En prenant le repas du Seigneur tantôt, c'est ce qu'on veut se rappeler. Christ est mort pour nos péchés, mais Christ est ressuscité. Il vit, et ça, il veut qu'on le dise jusqu'à ce qu'il revienne. On peut se demander pourquoi l'incarnation, pourquoi la mort et pourquoi la résurrection de Jésus. Dès le premier credo, c'est une confession de foi, la réponse est claire. Pourquoi la mort, la naissance, pourquoi la mort, pourquoi la résurrection? Pour nous les hommes, l'espèce humaine, je veux dire, et pour notre salut. Cherchons pas ailleurs. C'est ça qu'on doit croire. Jésus est né, Jésus est mort, Jésus est ressuscité pour notre salut. Dieu n'est pas indifférent à nos peines. Des fois, ça peut sembler comme ça, mais pas comme ça. Dieu aime la vie et veut nous donner sa vie pour l'éternité. Si nous croyons, si on croit à cela, est-ce qu'on peut, pensez-y, là. Est-ce qu'on peut refuser l'incroyable scénario d'un Dieu en colère contre le péché des hommes, mais qui est apaisé par le sang de son Fils? Non, il ne faut pas refuser ça, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. À cause de notre péché, Dieu était en colère. La colère de Dieu reposait sur nous. Mais, et je dis souvent, j'aime les « mais » dans la Bible, mais le fait qu'il a voulu tout de suite, après le péché d'Adam et Ève, il a voulu tout de suite trouver un moyen pour qu'on puisse se réconcilier avec lui. La colère de Dieu demeure sur ceux qui ne croient pas. Mais pour nous, Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Son sang a apaisé la colère de son Père. Encore, venons à cette question, pourquoi Jésus s'est fait homme? Pour nous révéler le vrai visage du Père. Un Dieu avec un visage humain qui veut aimer l'homme
et non pas le faire payer. Ça, là, je m'adresse à tous ceux qui, ce matin, peut-être, n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Dieu veut pas te faire payer. Il veut t'aimer. Et c'est pour ça qu'en cette semaine sainte-là, où le point culminant, c'est-à-dire de la souffrance de Christ, a été sa crucifixion sur la croix, où le point culminant de notre espérance vivante est la résurrection de Christ, c'est pour ça que ce matin, on est réunis pour se rappeler comment Dieu nous aime. Quelle révélation formidable pour nous les hommes et pour notre salut. Parce que par cette révélation-là, Jésus a mis en jeu sa propre vie. Il nous a libérés du péché au prix de sa propre vie. Et il est ressuscité afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Prions Dieu. Oui, Papa. Quelle joie. Quelle chose formidable de voir comment Dieu nous a tant aimés. Et mon âme. L'appel que je fais aux hommes et aux femmes qui n'ont pas cette joie-là de te connaître, c'est de renoncer, Seigneur Dieu, reconnaître qu'ils sont des pécheurs, tout comme nous, on était des pécheurs condamnés. Et que, en plaçant notre foi dans ce sacrifice parfait du Fils de Dieu, de Jésus, si on croit fermement dans tout ce qui est écrit dans la Bible sur Jésus, et si on lui demande de nous aider à l'obéir et à lui obéir, et à nous aider à marcher dans cette vie-là, si on l'accepte comme étant notre sauveur et qu'on veut qu'il soit le Seigneur de notre vie. Ma prière ce matin, l'appel que je fais selon ce que le Seigneur nous demande, c'est que toutes ces personnes-là ce matin puissent se rendre jusqu'au pied de la croix, de déposer humblement leur péché, d'avoir le regret de leur péché et de croire que Dieu les a pardonnés et enfin de marcher en nouveauté de vie. Gloire à toi, Seigneur. Il est vivant. Il est ressuscité. Jésus, notre frère bien-aimé, en toi on te prie. Amen.